Vous écoutez, on lit pour vous.
Les nouveaux emplois à l'ère des médias sociaux, un texte de Mélissa Lévy, conseillère en orientation, paru dans le numéro 157, été 2022, du magazine Paraquad. Au sein des médias traditionnels, les personnes en situation de handicap constituent une minorité silencieuse. On les voit très rarement au cœur des trames narratives des films, des téléromans ou des romans. On en connaît très peu sur leur réalité au quotidien. Un triste constat puisque ce sont des membres de notre société à part entière. Comment faire pour les sortir de l'ombre, faire tomber les tabous et leur permettre d'occuper l'espace médiatique qui leur revient? Le monde des communications a changé à une vitesse folle dans les dernières années. Nous avons assisté à l'émergence de nouvelles plateformes, notamment les médias sociaux, qui permettent aux gens et aux organisations de rester connectés les uns aux autres. Ils permettent aussi à tous de s'exprimer et de montrer des parcelles de leur quotidien. Par le fait même, les personnes en situation de handicap peuvent contribuer à sensibiliser la société concernant la réalité de ce qu'ils vivent, à dénoncer le manque d'accessibilité, le manque de services et les inégalités, à se regrouper ou à échanger entre eux. Les médias sociaux peuvent être utilisés pour exposer la réalité des personnes en situation de handicap et sensibiliser le public et les employeurs. Ces innovations technologiques permettent la création de nouveaux espaces publics, mais aussi de nouveaux emplois. Saviez-vous que 60% des emplois du futur n'ont pas encore vu le jour? Avec l'avènement des médias sociaux et de la nouveauté qu'ils engendrent, nous sommes témoins de la création de nouveaux types d'emplois comme les webmestres, les modérateurs, les influenceurs, les gestionnaires de médias sociaux, de communautés, de marketing web et plusieurs autres. Il s'agit d'un domaine qui est en essor et qui peut convenir à des travailleurs à mobilité réduite puisque tout le travail peut s'effectuer du domicile. Ce qui peut être un avantage considérable pour certains. Cette nouveauté pave la voie à des initiatives intéressantes comme des groupes de soutien pour les pères aidants, pour les aidants naturels, pour les chercheurs qui désireraient utiliser ces moyens de communication à des fins de recherche, pour la création de communautés de personnes en situation de handicap. Les personnes à mobilité réduite qui ont le profil qui souhaitent investir ce domaine professionnel peuvent bénéficier de formations de courte durée sur le sujet. Que faut-il comme qualité ou atout pour percer dans ce domaine en émergence? Il faut tout d'abord une bonne dose de créativité et de curiosité. Comme le domaine est relativement nouveau, il ne faut pas avoir peur de faire les choses différemment, d'apprendre de nouvelles techniques, de penser autrement. De plus, il faut aussi avoir le sens du service à la clientèle ou des relations sociales. Bien que les tâches s'effectuent derrière un écran, un auditoire se trouve à l'autre bout du clavier et il faut pouvoir gérer les commentaires et les insatisfactions. Le côté artistique n'est pas à négliger non plus. Avoir une plume fine et des compétences en graphisme sont certainement des atouts fort intéressants pour attirer l'attention des gens. Enfin, des compétences analytiques et en gestion de projets sont de mise pour bien évoluer dans ce domaine. Il s'agit d'une occasion en or pour parler de formations innovantes de courte durée pour ceux et celles qui aimeraient développer leurs compétences en matière de réseaux sociaux. Par exemple, vous avez l'AEC, Stratégie et animation de réseaux sociaux, qui se donne dans plusieurs cégeps, dont au Collège Bois de Boulogne, et au cégep Montmorency. Ces formations sont dispensées en ligne et peuvent être subventionnées par Service Québec. Un domaine qu'il vaut la peine d'explorer pour être branché sur la réalité du futur et les emplois qui sont à venir. Croyez-vous avoir le profil de l'emploi? C'était « Les nouveaux emplois à l'ère des médias sociaux ». Un texte de Mélissa Lévy, conseillère en orientation, paru dans le numéro 157, été 2022, du magazine Paraquad. Devenir maman en fauteuil roulant. avancer vers une reconnaissance de la parentalité en situation de handicap. Un texte de Marjorie Aunos, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Le 5 janvier 2012 est ma date d'anniversaire, pas la date de ma naissance, mais celle de ma deuxième vie. Sur une route des Laurentides, ma voiture a glissé sur une plaque de verglas au moment où un camion s'approchait en sens inverse. Cela n'a pris que quelques secondes. Dans l'impact, ma moelle épinière a été touchée et je suis devenu paraplégique au niveau T2. Quand je me suis réveillé après ma chirurgie, j'ai pensé à mon fils de 16 mois. Sans avoir eu de longues conversations avec l'équipe soignante, je savais déjà que ma vie ne serait jamais plus la même. Et j'avais peur de ne plus pouvoir être la maman que j'avais imaginée pour mon fils. Je pensais, si je ne marche plus et que Thomas court partout, comment vais-je le contrôler? Une chaise roulante ne navigue pas très bien dans le sable. Comment vais-je pouvoir le pousser sur la balançoire? Est-ce que je serai capable de le coucher dans son lit à barreaux, de lui donner le bain? Si j'ai encore de la difficulté avec mon équilibre, comment vais-je apprendre à Thomas à jouer au soccer ou au hockey? Qui va l'accompagner à l'école? Vais-je pouvoir rencontrer ses professeurs si son école n'est pas accessible? Je n'avais aucun repère, aucun modèle de parent en fauteuil roulant. Je doutais de mes propres capacités à faire face à cette nouvelle réalité. Je n'arrivais pas à visualiser à quoi cela pourrait ressembler et j'avais peur. Étant chercheur et clinicienne dans le domaine de la parentalité en situation de handicap, je savais que c'était possible, mais je savais aussi que je devrais probablement faire face à de nombreux défis, incluant des attitudes discriminatoires. J'étais résolu à me battre pour être une maman impliquée dans la vie de son fils. Mais je devais faire face aux connaissances que j'avais comme chercheur. Une surreprésentation de parents ayant un handicap sont signalés à la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, malgré un manque de preuves de négligence ou d'abus. Même mes expériences cliniques en tant que psychologue attisaient ma peur et la rendaient omniprésente. Pendant des mois, à l'insu de tous, j'élaborais une liste de toutes les situations qui pourraient être perçues comme problématiques et y ajoutais toutes les solutions possibles auxquelles je pouvais penser. Je voulais être prête quand la travailleuse sociale de la Direction de la protection de la jeunesse viendrait me poser toutes ces questions. Elle n'est jamais venue. Et puis mon ergothérapeute m'a fait rencontrer une maman paraplégique, une ancienne patiente qui depuis s'était mariée et avait eu 2 enfants. Elle était venue avec son plus jeune fils qui n'avait que quelques mois de plus que mon Thomas. La voir m'a empli de possibilités. Je pouvais m'imaginer, moi aussi, un jour, amener Thomas à une fête d'enfants. Je pouvais entrevoir ce dont j'aurais besoin pour m'aider à continuer à être engagé dans la vie de mon fils. Une simple rencontre m'a redonné l'espoir que moi aussi j'en serais un jour capable. Que peut-être je l'étais déjà, en fait. J'avais besoin de me reconnaître, de voir et comprendre où pouvait être ma place. Sans connaître le but ultime, je pense que c'est pour cela que j'ai commencé à écrire mes petites anecdotes familiales. Comme la fois où nous étions en vacances seulement 6 mois après mon accident et que tous les gens sur la plage nous ont adoptés, mes parents, mon fils, ma chaise roulante et moi. Ou la première fois où Thomas et moi sommes allés à une fête d'amis, juste tous les deux. J'écrivais nos histoires et parfois je les partageais sur les réseaux sociaux pour faire rire mes amis ou leur montrer comment je m'étais débrouillé. Et un jour, l'une d'entre elles m'a suggéré d'en faire un livre. Un livre à partager, un livre qui pourrait peut-être un jour être lu par quelqu'un qui aurait besoin de faire ma rencontre littéraire pour lui redonner espoir. Pour être capable de s'imaginer en maman qui se propulse en fauteuil roulant. C'est comme ça qu'est né mon livre qui parle du long processus de réadaptation, celui qu'on vit à l'interne et celui qui perdure une fois rentré chez nous. un livre qui parle d'acceptation, de gestion des énergies, de créativité, de justice sociale et d'un amour plus grand que le ciel et tout ce qui entoure, celui qui grandit chaque jour pour nos enfants. Maman en fauteuil roulant, la force de la détermination lorsqu'on est parent et paraplégique, m'a montré comment la vie est belle malgré, même si et même avec un handicap. Le 5 janvier 2023, cela fera 11 ans que j'utilise mon fauteuil roulant pour me déplacer. 11 ans de défis et aussi 11 ans de bonheur. Je suis une maman en fauteuil roulant et je suis impliquée dans la vie de mon fils. En une décennie, j'ai vu mon fils grandir en un jeune homme qui est avenant et inventif et nous sommes devenus une super équipe. Dans ces 10 ans, j'ai aussi eu l'opportunité de voir évoluer 3 thèses de doctorat portant sur la parentalité et les parents en situation de handicap au Québec. Dion, en 2019, Mercera, en 2021, Pitouche, en 2022. Chaque étudiante a mis l'emphase sur un élément différent, ce qui nous permet maintenant de dire qu'au Québec, les parents avec un handicap moteur ont des forces de caractère qui leur permettent de faire face à de nombreux défis. Défis dont plusieurs sont causés par un manque d'accessibilité dans le transport adapté, d'un manque de disponibilité d'appartements accessibles et d'un manque d'adaptation des services de santé, incluant en périnatalité, services sociaux et lieux publics, incluant garderies, piscines, arénas et écoles. Ces études ont aussi démontré des besoins de services additionnels qui répondraient non seulement aux besoins en soins personnels, mais aussi en tant que parents et responsables d'enfants, et ce, bien après que les enfants aient 2 ans. L'encadré CIBA présente quelques constats des recherches récentes dans le domaine. Avec tout ça, j'entrevois la prochaine décennie avec beaucoup d'espoir. Un espoir qui grandit avec les avancées et avec l'établissement d'une équipe dynamique de chercheurs, la voix de professionnels, de parents et leurs familles, et avec le soutien d'organismes communautaires et de défense des droits. La parentalité en situation de handicap existe. Il est temps qu'on la reconnaisse. Lecture de l'encadré. Être parent avec une incapacité motrice, un état de la recherche universitaire récente. La parentalité en situation de handicap est invisible. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de parents avec une incapacité motrice, c'est qu'on n'en parle pas. Et on ne les voit pas non plus. Pourtant, nous sommes là, estimés à plus de 2,8% des familles québécoises ayant un enfant d'âge mineur. Bien qu'il y ait un manque de représentation marquant, il reste qu'au Québec, nous avons été choyés par la publication, dans la dernière décennie, de 4 mémoires de maîtrise et thèses de doctorat portant sur la parentalité de personnes qui ont des limitations motrices. Chacune de ces recherches a formulé plusieurs constats que je partage avec vous brièvement ici. Les parents en situation de handicap moteur ou ayant une atteinte neurologique ont plusieurs forces de caractère, notamment le courage, la persévérance, la créativité et la capacité de travailler en équipe. Ils ont aussi développé plusieurs stratégies personnelles pour leur permettre de prendre soin de leurs enfants et être présents dans leur vie. Ils sont actifs dans la défense de leurs droits, même si ce processus leur coûte en énergie. Les parents semblent aussi avoir un réseau de soutien composé de leurs amis et des membres de leur famille. Par contre, ils vivent beaucoup de frustration face aux nombreux obstacles présents dans notre société. En voici quelques-uns. Plusieurs femmes doivent faire face aux préjugés et réactions négatives face à leur grossesse et ont ensuite noté une surveillance accrue par les professionnels de la santé une fois le bébé né. Plusieurs parents sont sans emploi et vivent sous le seuil de la pauvreté. Le fait que certains équipements adaptés au rôle parental soient coûteux n'aide pas. plusieurs pères en situation de handicap se sentent exclus lors du suivi médical, lors de l'accouchement ou lors des rencontres postpartum. L'accessibilité physique des immeubles à caractère familial, c'est-à-dire parcs, arénas, piscines, bibliothèques, écoles, cinémas, cabinets de dentistes, cliniques médicales, garderies, est limitée et affecte l'enfant, frustration, et le lien d'attachement avec l'enfant. Les parents en situation de handicap veulent pouvoir participer aux activités de leurs enfants. Le transport adapté ne l'est pas tant puisque, par exemple, pour y avoir accès avec son jeune enfant, il faut fournir son propre siège d'auto, transporter avec soi le sac à couche, le siège d'auto, l'enfant et ses propres sacs devient presque une tâche impossible. Les services famille ne coordonnent pas avec les services réadaptation ou soutien à domicile et il n'est pas possible de combiner les services des différents programmes. On doit alors choisir de recevoir de l'assistance, 1. Soit en tant que parent, 2. Soit en tant que personne nécessitant des services personnels, mais pas les deux. L'accès au logement adapté assez grand pour une famille est difficile. La plupart des logements des proches et autres membres du réseau social ne sont souvent pas accessibles. Les services spécialisés existants sont limités à la petite enfance, 0-2 ans. Il y a aussi un manque de professionnels ayant cette expertise en région. Le besoin de soutien concernant les stratégies d'éducation, c'est-à-dire discipline, enfant qui devient plus mobile, est aussi un autre besoin important. Plusieurs besoins d'équipement adapté sont difficiles à combler, étant donné que chaque parent a des besoins particuliers et que les enfants se développent rapidement. Ainsi, un équipement peut être vite désuet. Il est à noter que lorsque le handicap est survenu après que l'on soit déjà parent, les services n'offrent pas de soutien thérapeutique ni aux enfants ni aux conjoints partenaires. Le manque de mesures d'implantation des principes d'accessibilité universelle fait aussi en sorte que nous pouvons nous retrouver dans des chambres d'hôtel non adaptées, c'est-à-dire pas d'ouverture automatique, bain, toilette, lit trop haut, ce qui peut compliquer les sorties et vacances familiales. Il reste beaucoup à faire pour sensibiliser les gens à la réalité des familles dont un ou deux parents ont un handicap. Vivre avec un handicap peut arriver à tout moment. Rendre nos lieux publics et procédures inclusives est donc nécessaire pour le bien de tous. Il serait aussi important de valoriser les interventions offertes par les organismes communautaires car ils soutiennent beaucoup de parents dans leur vie quotidienne. Je terminerai en disant que nous avons une belle opportunité présentement au Québec. Plusieurs chercheurs, cliniciennes, services publics, parents et organismes communautaires se sentent présentement investis dans la valorisation de ce rôle si important. À nous de nous coordonner et de collaborer pour effectuer les changements essentiels. C'était « Devenir maman en fauteuil roulant, avancer vers une reconnaissance de la parentalité en situation de handicap », un texte de Marjorie Aunos, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Accessibilité des ressources d'aide en sécurité alimentaire, un moyen de réduire les inégalités sociales. Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Pour nous parler de l'enjeu de la sécurité alimentaire chez les personnes en situation de handicap, nous avons rencontré Marie-Hélène Tanguay, coordonnatrice de développement de projets chez Defies sans limite. Ses expériences tant personnelles que professionnelles soulignent de belles initiatives en matière de sécurité alimentaire dans la région montréalaise, mais aussi certaines préoccupations sur ce qui reste encore à faire. Marie-Hélène, pourriez-vous vous présenter et nous dire ce qui vous a amené à vous intéresser aux enjeux de sécurité alimentaire? Je suis coordonnatrice de développement de projets chez Défis sans limites et, de manière plus générale, je travaille dans le milieu communautaire depuis 2009. Je vis avec une paralysie cérébrale de naissance et je m'intéresse depuis que je suis toute jeune aux enjeux de sécurité alimentaire. Mon grand-père faisait des jardins et mon père était jusqu'à tout récemment agriculteur biologique. C'est donc une préoccupation de famille. Je constate que de plus en plus de personnes s'intéressent aussi à ces enjeux. On entend parler d'autosuffisance, de la nécessité de se renseigner sur la provenance des aliments, etc. Quelles sont vos expériences professionnelles et personnelles avec les ressources d'aide en sécurité alimentaire? De janvier à juin 2022, j'ai participé à un comité consultatif de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap pour un projet sur la sécurité alimentaire et les personnes en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité. Le but de ce projet, qui s'appelle « Les sentinelles du garde-manger », était d'aller sur le terrain à travers la région de Montréal, d'identifier les lieux de dépannage sécurité alimentaire accessible et d'ensuite créer une plateforme numérique qui répertorierait les ressources existantes pour les personnes en situation de handicap. Ce projet a été mis sur pied par l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap et a nécessité la collaboration de différents partenaires, dont Défis sans limites. Sur le terrain, on a notamment eu le plaisir de travailler en collaboration avec Centre Paul Roulant, qui est un centre alimentaire communautaire. Cet organisme accessible offre une pluralité d'activités et de services, notamment une popote roulante, un jardin sur le toit et j'en passe. Cette collaboration nous a permis d'aller faire du bénévolat là-bas. C'est intéressant de savoir que des personnes en situation de handicap peuvent aller faire du bénévolat dans ce type de ressources. Après la portion terrain, l'équipe du comité consultatif a travaillé à identifier et cartographier les ressources disponibles et accessibles en sécurité alimentaire sur le territoire montréalais. On a malheureusement constaté que ce ne sont pas tous les organismes en sécurité alimentaire qui sont en mesure d'accueillir et de servir des personnes en situation de handicap. Tous n'offrent pas non plus le service de livraison. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un en situation de handicap qui s'apprête à consulter, fréquenter, faire appel à une nouvelle ressource en sécurité alimentaire serait de l'appeler avant de se déplacer afin de s'assurer de l'accessibilité réelle des lieux en fonction de ses besoins et capacités spécifiques. D'un point de vue davantage personnel, je suis une adepte régulière des cuisines collectives de l'organisme Bouffe Action de Rosemont, et ce, depuis maintenant 8 ans, à raison d'une fois par mois. C'est un très bel organisme qui œuvre en sécurité alimentaire et propose une offre d'activités très variées. En plus des cuisines collectives, il y a des jardins collectifs, des ateliers d'alimentation pour les futures mamans, etc. Ils ont des intervenants sur place. Ils ont aussi des groupes de cuisine collective adaptés qui s'adressent spécifiquement aux personnes à mobilité réduite qui sont atteintes d'une maladie dégénérative ou qui vivent avec une déficience intellectuelle légère. C'est chaque fois un lieu d'échange et de partage enrichissant, en plus de nous permettre de découvrir de nouvelles techniques et recettes. Depuis la pandémie, Bouffe Action a aussi mis sur pied le pôle logistique alimentaire en nutrition, PLAN, qui offre notamment un service de livraison d'aliments qui sinon auraient été jetés par des épiceries et autres commerces d'alimentation avant leur date de péremption. Il s'agit d'une initiative exemplaire qui permet d'économiser et de réduire grandement le gaspillage alimentaire. Si, au lieu de les jeter, toutes les épiceries donnaient leurs invendus à des organismes de sécurité alimentaire, je suis convaincu qu'il y aurait bien moins de personnes en situation précaire ou vulnérable qui souffriraient de la faim. Dans le contexte actuel, que trouvez-vous inacceptable en 2023 en matière de sécurité alimentaire? À cause de l'inflation telle qu'on la connaît actuellement, plusieurs personnes n'ont pas accès à des aliments ou à des mets préparés sains et c'est inacceptable. Bien se nourrir est un besoin primaire, de base. Plein d'obstacles peuvent limiter ou complexifier l'accès à une alimentation saine pour les personnes en situation de handicap, et l'inflation rajoute un obstacle supplémentaire à tout ça, en renforçant les inégalités sociales chez les personnes vivant avec un revenu moindre. Si tu manges sainement, tu es en meilleure santé, tu récupères mieux, tu as davantage d'énergie, tu peux mieux t'impliquer socialement en tant que citoyen, travailler, défendre tes droits. Je trouve aussi inacceptable que l'offre de services à domicile soit à ce point inégale à travers le territoire montréalais, d'un CLSC à un autre, par exemple. Ainsi, plusieurs personnes qui auraient besoin de services en matière d'aide alimentaire, comme la préparation et la distribution de repas, n'y ont pas nécessairement accès. On constate aussi, depuis plusieurs années, une diminution de l'offre du service de préparation et de distribution de repas. Les personnes en situation de handicap, notamment, doivent donc se tourner vers d'autres ressources. Ressources qui, selon les endroits, sont parfois très limitées, voire inexistantes. En ce qui a trait à la sécurité alimentaire, quelle demande au gouvernement feriez-vous pour 2023? Je suis convaincu qu'il est impératif d'augmenter les revenus et développer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap afin de leur permettre d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Il faudrait aussi davantage de ressources accessibles en matière d'aide alimentaire, que ce soit sur l'île de Montréal ou ailleurs. Pour 2023, je formule aussi le souhait que davantage de personnes en situation de handicap s'impliquent bénévolement. Pour obtenir davantage d'informations sur les organismes montréalais qui accueillent adéquatement les personnes en situation de handicap dans le secteur de la sécurité alimentaire, je conseillerais aux personnes intéressées de contacter directement l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap qui pourra les orienter. C'était « Accessibilité des ressources d'aide en sécurité alimentaire, un moyen de réduire les inégalités sociales », un texte d'Annabelle Grenon-Fortin paru dans le numéro 159 « Hiver-printemps 2023 » du magazine Paraquad.